Radio Kapi.
Denrées importantes pour la vie. Cependant, en RDC, seuls 30% des Congolais ont l'accès facile à l'eau potable. En cause, notamment, la défectuosité et les pannes récurrentes des machines de la régie des eaux, explique le directeur général de cette entreprise de l'État. C'était hier 22 mars, à l'occasion de la journée dédiée à l'eau. 5 morts et 6 personnes enlevées. Bilan provisoire de l'attaque dimanche de la milice Codeco à Dii, 25 km au nord de Bounia dans l'Ituri. Des jeunes en colère ont manifesté hier et des activités ont été paralysées. L'armée signale le ratissage de la zone. Et puis, Matata Ponyo est notre invité ce matin. L'ancien premier ministre de la RDC parle notamment de sa désignation comme expert en Guinée-Conakry pour apporter son appui au gouvernement de ce pays et aussi de son départ du FCC et du PPRD. Madame, Messieurs, bonjour. Le monde a célébré hier 22 mars la journée mondiale de l'eau. Thème de cette année, la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. À cette occasion, les Nations Unies mettent un accent particulier sur l'importance de l'eau douce et sensibilisent à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Plus de détails avec Jean-Pierre Elali Coco.
Denrée importante pour la vie, la valeur de l'eau dépasse largement son prix. Il est important dans nos foyers, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l'intégrité de notre environnement naturel. Qui plus est, le développement économique et l'essor démographique dans le monde signifient que l'agriculture et l'industrie ont de plus en plus besoin d'eau et la production d'énergie en eau peut répondre à cette demande. Les changements climatiques rendent également les ressources en eau plus instables et contribuent à la pollution. En RDC, seuls 30% des Congolais ont l'accès facile à l'eau potable, reconnaît le ministre congolais des ressources hydrauliques, Eustache Mwanzi, dans un message à la population l'année dernière. Pour lui, le gouvernement est conscient de cette insuffisance et l'a inscrite parmi ses ambitions de l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030. Pour y arriver, la meilleure stratégie, toujours selon le ministre, c'est la mise en œuvre de la loi du 31 décembre 2015 relative à l'eau et qui libéralise la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'eau en RDC.
Par ailleurs, le manque d'accès à l'eau potable entrave le développement de la femme habitant les milieux ruraux et périurbains. C'est ce qu'ont indiqué les femmes du territoire de Mbanzangungu au Congo central. C'était à l'issue d'une tribune d'expression organisée hier par l'Union des coopératives maraîchères et agricoles de Cataracte, UCOMACAT en sigle. C'est en marge des activités liées au mois de mars dédiées à la femme. À l'issue de cette rencontre, les femmes du territoire de Mbanzangungu ont remis symboliquement une bouteille d'eau à l'administrateur de ce territoire. Question pour ces femmes de invité à plaider auprès des autorités en faveur de l'accès à l'eau potable dans sa juridiction. Reportage de Nana Plurish Mambou.
Les femmes de toutes tendances venues de tout Mbanzangungu ont rehaussé de leur présence cette tribune d'expression dont la tenue coïncide avec la journée internationale de l'eau. Selon ces femmes, l'accès à l'eau potable fait partie des corvées endurées quotidiennement par les femmes rurales et périurbaines. Une situation qui enfreint le sort de la femme, estime Esther Lutala, une intervenante.
L'eau, c'est la vie. Et l'eau qui est la vie, c'est l'eau de quelle qualité? C'est une eau de bonne qualité pour éviter les différentes maladies. Beaucoup meurent des maladies comme la fièvre typhoïde. Et ces personnes ont des comptes de potentialité capables d'émerger ces pays, mais ils meurent.
D'après ces femmes de Mbanzangungu, le problème d'eau se pose avec acuité dans les quartiers Kimwingu, Mpete, Savalo, Kampumpa et presque dans tous les villages comme Kolomission, Mweke et Mbanzampambu. Signalons que cette activité organisée par l'Union des coopératives maraîchères et agricoles des Cataractes en collaboration avec la coopérative Luzolo Luatoma a été appuyée par la fondation allemande Hans Seidel. De Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Célébration de la journée de l'eau. Au Maniema, seulement 32% de la population de la ville de Kindu a accès à l'eau potable. Révélation du chef de division provinciale de la santé au cours d'un point de presse hier à cette occasion. Docteur Eustache Bibala Farai fait savoir que l'eau dans le Maniema et à Kindu en particulier continue d'être une denrée rare. Cette situation expose la population à beaucoup de maladies. Pour clore ce chapitre, célébration de la journée mondiale de l'eau, sachez qu'en RDC, le thème retenu est l'accès à l'eau potable dans le contexte de COVID-19. Pour le directeur général de la régie des eaux, la défectuosité et les pannes récurrentes ainsi que la dégradation de l'écosystème sont entre autres les raisons qui expliquent les difficultés de la desserte en eau potable. Clément Moubiaï s'exprimait ainsi au cours d'un point de presse hier à Kinshasa. Il est au micro de Paul Matendo.
La défectuosité et les pannes récurrentes des quatre groupes motopompes du captage d'eau brute de l'usine de Ndili, qui intervient à 60% dans la déserte de la ville de Kinshasa, la dégradation de l'écosystème ayant engendré l'ensablement des captages d'eau brute des usines par les rivières Ndili, Lukaya et Lukunga, le déversement des ordures et les déchets solides, ainsi que l'occupation anarchique des bassins versants de ces trois rivières, constituent les causes majeures qui sont à la base de la perturbation de la desserte en eau potable que nous observons dans la ville chaque jour. À Kinshasa, jour et nuit, nos techniciens sont à la manœuvre pour assurer la réparation et la remise en service des anciens groupes motopompes devenus vétustes.
Province de l'Ituri, je vous le disais en titre, 5 morts et 6 personnes prises en otage. Bilan provisoire de l'attaque dimanche des assaillants de la Codeco à Dii. C'est dans la périphérie ouest du centre commercial d'Iga Barrière. Nous sommes à 25 km au nord de Bounia. Selon des sources sécuritaires, l'armée continue avec les opérations de ratissage dans la zone. Une situation qui est à la base de la paralysie hier des activités dans cette entité. Martial Kiza nous raconte.
Une vingtaine d'assaillants de la Codeco à provenance de Nyarada, dans les secteurs de Walindoujati, a lancé un assaut sur Dii entre Iga Barrière et Nizi vers 11h. Des sources sécuritaires rapportent que la cible de ces hors-la-loi était la population locale, ce qui a poussé des éléments commando des FRDC aussitôt répliqués. Ces combats entre les deux parties ont duré plusieurs heures. Plusieurs sources locales et officielles avancent un bilan de 5 personnes tuées, des corps de victimes décapités à la machette ont été ramassés ce lundi matin par l'armée. Dans cette confusion, 6 personnes étaient grièvement blessées par balles et d'autres à la machette. Avant de se retirer, ces assaillants ont pris en otage 8 personnes, à majorité de jeunes. Peu avant la tombée de la nuit, des jeunes en colère ont brûlé des pneus et barricadé la route nationale numéro 27. Ces manifestants ont dans la foulée brûlé un véhicule d'une agence du système des Nations Unies qui est venait d'une mission dans la région. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Du côté du Lualaba, les membres de l'ONG dénommée Regroupement des jeunes pour le progrès du Lualaba, antenne de Sandoa, s'inquiètent de la recrudescence des cas d'enlèvement suivis de meurtres par des inconnus, plusieurs cas signalés en l'espace d'une semaine. Pour cela, ces jeunes plaident pour le renforcement des services de sécurité. Écoutez à ce sujet le chargé de communication de ce regroupement, Polydor Moutombe, joint par Jean Gandou.
Le premier est celui d'un homme âgé de 27 ans qui a été violemment tabassé par des hommes inconnus, précisément au village Chipopo, à environ 12 km du chef-lieu. Le deuxième est celui d'une dame qui a été également victime de menaces par des hommes inconnus sur la route vers son champ, à 3 km du chef-lieu. Le troisième cas est celui de M. Mboise, violemment tabassé, emporté même par des hommes inconnus qui l'ont amené jusqu'à une distance de 10 km. Ce dernier a eu la vie sauve grâce à un conducteur de moto qui a éclairé sur la route. Ainsi, les hommes inconnus l'ont relâché pour se cacher dans la brousse. Le quatrième cas est celui de chef de groupement Mouin Kamouil. Ce dernier a été tabassé et tué avec ses deux notables par le jeune de son village. Nous demandons aux autorités compétentes de renforcer les éléments de la police et des FARDC afin de couvrir la patrouille mixte pour mettre hors d'état de nuire ces inconnus qui sèment la terreur sur l'espace du territoire.
Interrogé, l'administrateur du territoire de Sando a indiqué qu'il ne s'agit pas des cas d'enlèvement, mais plutôt des cas de justice populaire, dit-il. D'après Justin Kapumba, 3 des 4 victimes ont été accusées de sorcellerie avant d'être lynchées. La quatrième personne a été tuée pour cause d'adultère. La police a procédé à quelques arrestations. Nous voulons qu'une page soit tournée dans la gestion de la chose publique dans ce pays. C'est en substance le conseil du cardinal Fridolin Ambongo au président du Sénat, Modeste Baati, lors de l'audience lui accordée hier. L'archevêque de Kinshasa dit fonder son espoir sur les fidèles catholiques pour qu'il y ait harmonisation entre la foi et l'engagement politique et social. Écoutez plutôt Monseigneur Ambongo dans cet extrait choisi par Jean-Didier Ogobani.
Il est là aujourd'hui comme président du Sénat. Je peux dire la justice est faite. Mais au-delà de ça, c'est plutôt la mission qui est désormais la sienne. Comme il a dit lui-même, il est venu chez moi à double titre, comme fidèle catholique, mais aussi comme homme politique. Nous voulons qu'une page soit tournée dans la gestion de la chose publique dans ces pays. Et surtout, nous fondons beaucoup d'espoir sur nos fidèles chrétiens catholiques pour qu'il y ait cette harmonisation entre la foi et l'engagement politique. Que notre foi ne soit pas seulement une foi qu'on professe à l'Église, mais que cette foi puisse traverser l'ensemble de nos activités et que les gens qui le verront travailler, qu'ils se disent, effectivement, ceux-là, ce sont des vrais fidèles catholiques.
Pour sa part, le président du Sénat, Modeste Baati, dit prendre l'engagement de travailler correctement selon la loi chrétienne et les orientations de l'Église pour que le peuple y trouve son compte. Par ailleurs, la plateforme Lamouka dit désapprouver la démarche entreprise actuellement par les confessions religieuses pour désigner les animateurs de la commission électorale CENI. Dans une déclaration publiée hier à Kinshasa, le présidium de Lamouka dit être convaincu, comme beaucoup de Congolais, qu'il est impérieux d'adopter de manière consensuelle par toutes les parties prenantes la réforme de la CENI avant toute désignation de ses membres. Déclaration signée par Adolphe Muzito et Martin Fayoulou, cette plateforme dit avoir déjà mis sur la table sa proposition de réforme de la loi organique de la CENI qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, permettra d'avoir une centrale électorale effectivement dépolitisée, indépendante et responsable, d'après Muzito et Fayoulou. Dans l'actualité, notez aussi que la dépouille du député national Henri Thomas Lokondo-Yoka, décédé mercredi 10 mars dernier à Johannesburg en Afrique du Sud, a été rapatrié à Kinshasa et exposé hier au Palais du Peuple. C'est dans une forte émotion que les parlementaires congolais ont rendu leurs derniers hommages à celui qu'ils ont qualifié de doyen des parlementaires et star du débat parlementaire. Sénateur depuis 2007, puis député national depuis 2011, Henri Thomas Lokondo-Yoka a été le parlementaire le plus libre dans ses opinions dans tous les débats au sein du Parlement, reconnaît la plupart de ses collègues. Des détails dans ce reportage de Michel Kifindangoy.
Le décès d'Henri Thomas Lokondo est une vraie perte pour la nation, estime le député Jacques Joly.
Je connais le vieux Henri Thomas il y a presque 50 ans. C'est le modèle type de parlementaire qu'il faudra avoir, qui ne sont pas bloqués dans de querelles byzantines, mais qui regardent l'intérêt général.
Henri Thomas Lokondo a donc tracé la voie d'un parlementaire libre et responsable pour tous les jeunes parlementaires, estime Paul Moindo.
Le collègue Lokondo incarnait le vrai sens du mandat impératif d'un député national. Il avait été de la majorité, mais il n'était pas facile de savoir s'il l'était réellement. Il était souvent du côté du peuple.
Pour le président de la conférence des journalistes parlementaires, le décès d'Henri Thomas Lokondo va mettre en mal les débats parlementaires à l'Assemblée nationale. Michel Isaac.
Pour nous, il était l'attaquant dans la surface des réparations sur des questions divisant les deux partis, peut-être l'opposition et la majorité. Voilà pourquoi il était même le non-inscrit. Henri Thomas Lokondo a été beaucoup pour la presse qui traite des questions parlementaires et politiques.
Henri Thomas Lokondo est l'un des initiateurs des G13 qui ont amené le chef de l'État à des consultations nationales en vue de la mise en place de l'Union sacrée de la nation.
Actualité Afrique Monde.
Covid-19, l'Afrique du Sud revend ses doses du vaccin AstraZeneca à l'Union africaine. Le gouvernement sud-africain s'est détourné de ce vaccin début février à la suite des conclusions d'une étude locale de faible ampleur. Elle pointait un manque d'efficacité sur les formes modérées de la maladie à cause du variant sud-africain. Le gouvernement, qui avait dépensé près de 7 millions d'euros dans l'acquisition de ces doses, voulait à tout prix ne pas les gâcher. 14 pays de l'Union africaine, dont la liste n'a pas été dévoilée, se sont montrés intéressés pour acquérir les doses non utilisées du vaccin Oxford-AstraZeneca. Les doses seront livrées dès cette semaine alors qu'elles sont censées périmer fin avril.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Augustin Matata Ponyo, l'ancien premier ministre de la RDC. Il parle de sa désignation comme expert pour apporter son appui au gouvernement de Guinée-Conakry en ce qui concerne le leadership et la bonne gouvernance. Il donne ici des raisons principales de l'échec du parc agro-industriel de Bukangalonzo et apporte de l'éclairage sur son départ du FCC et du PPRD. Augustin Matata Ponyo s'entretient avec J.R. Lungembo.
Augustin Matata Ponyo, bonjour. On vous a vu dernièrement en Guinée-Conakry. Vous venez d'être approché par le président guinéen pour appuyer son gouvernement. Qu'en est-il au juste?
Oui, effectivement, j'étais près de deux semaines en Guinée-Conakry. Mon cabinet d'études Congo Challenge, qui est un think tank dans le domaine économique et financier, a signé donc un contrat à la demande du président guinéen pour pouvoir appuyer ce pays dans les cadre de son programme d'émergence économique. Et à ce titre-là, je suis appelé à œuvrer auprès du gouvernement guinéen pendant au moins 2 semaines par mois pour essayer de travailler avec son équipe. Depuis que j'ai quitté le fonction de Premier ministre en RDC, je suis très sollicité par certains pays africains.
Il y a quelque temps, l'Union africaine, vous aviez chargé de conduire sa mission d'observation électorale au pays de Condé. Et très récemment, vous y étiez aussi, comme vous venez d'ailleurs de le confirmer, pour animer à l'intention des membres du nouveau gouvernement guinéen un séminaire sur les thèmes « Gouverner autrement ». Alors, qu'est-ce qui explique cette proximité avec la Guinée et l'Union africaine?
Je pense que l'Afrique tout entière a vibré au rythme des performances économiques et sociales de la RDC pendant que j'étais aux affaires entre 2012 et 2016. Et il y a des pays africains qui ont voulu recourir à cette expérience. C'est pas la première fois que je conseille un pays africain. La qualité du leadership, la qualité de la gouvernance que nous avons exprimée pendant les 5 ans nous étions aux affaires. Et l'Union africaine ne peut pas se priver de bénéficier de cette expérience.
Comment réagissez-vous face à ce paradoxe qu'il y a entre la qualité de votre leadership et de gouvernance tant appréciée à l'extérieur et certains rapports qui révèlent votre responsabilité dans l'échec de certains projets de développement au moment où vous étiez Premier ministre à RDC?
Bon, bah écoutez, monsieur le journaliste, tout ce que je peux vous dire, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Et je voudrais partager avec vous ces communautés internationales, les Africains, les Congolais d'une manière générale, apprécient l'action que nous avons menée dans ce pays pendant près de 7 ans. Vous savez, j'étais ministre des Finances. Je puis attendre le point d'achèvement en 6 mois, alors qu'il en fallait 7 ans pour ceux qui m'ont précédé pour ne rien avoir. On appelait le point d'achèvement comme un serpent de mer, c'est-à-dire un serpent qui disparaissait chaque fois qu'on essayait de parler de lui ou qu'on essayait de le percevoir. Mais qui n'a pas vécu ce que nous avons fait pendant 5 ans? Congo Airways a été créé, Transco a été créé, la monnaie a été stabilisée, le chiffre 920 est devenu un chiffre mythique dans ce pays. Le fonctionnaire était payé à temps. Le 15, il voyait leur téléphone vibrer. Qui n'a pas vu les bâtiments intelligents dans ce pays? Qui n'a pas vu l'aéroport modulaire dans ce pays? Qui n'a pas vu les locomotives? La liste, elle est longue. Mais qu'a-t-on fait après Matata? Tout ce qui est beau de Dieu, c'est comment nous allons faire? Malheureusement, monsieur le journaliste, la vérité est plus forte que le mensonge. La lumière est plus forte que l'obscurité.
Vous ne dormez pas à cause de cette affaire Bukangalonzo. Alors, entre nous soit dit, qu'est-ce qui a été principalement à la base de l'échec de ce projet?
Ce projet, monsieur le journaliste, a échoué après mon départ. Comment vous pouvez vous imaginer quelque chose que vous avez créé et copié par les autres pays africains? Ça veut dire que ce n'était pas un faux pas.
Les projets 1000 écoles, où sont les 1000 écoles que vous avez annoncées et promis à la population?
Nous avons initié le projet des 1000 écoles, monsieur le journaliste. Nous en avons fait près de 780 écoles construites.
Où sont-elles? À Kinshasa?
Non, dans l'ensemble du pays.
Deux exemples à Kinshasa.
Je ne connais pas le nombre d'écoles qui ont été construites ici, mais moi-même j'en ai visité plusieurs, notamment à Kingansani, à Kimbanseke.
Quel regard portez-vous sur l'économie du Congo en cette période difficile que traverse le pays à cause de la pandémie? Alors la relance de l'économie RDC sera-t-elle possible?
Bon, écoutez, je ne sais pas me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas membre du gouvernement, mais toutes des mesures vigoureuses qui sont des natures.
Vous venez de quitter le FCC, déclaration rejetée en bloc par ceux qui étaient des sociétaires comme vous, de ces regroupements politiques. Comment réagissez-vous?
Bon, écoutez, je n'ai rien à réagir. Je l'ai dit que j'ai quitté le FCC, j'ai quitté le PPRD pour des raisons de convenances personnelles. Je continue donc à soutenir mon point de vue et je le fais de manière officielle en date du 12 février 2021.
Et vous adhérez officiellement à l'Union Sacrée?
Ce n'est pas à l'ordre du jour, monsieur le journaliste. Je l'ai dit, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Monsieur Augustin Matata Ponyo, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci, au revoir.
L'ancien premier ministre de la RDC était avec J.R. Lungembo Lwabung Anji. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Alain Rungu Shinge, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.